Salam alaikum wa rahmatullah, comment tu vas? Écoute, je suis très contente de te retrouver. J'espère que j'ai pas trop tardé pour toi. J'ai essayé de faire le plus court possible au niveau délai entre la deuxième et la troisième partie. Mais c'est vrai que c'est pas facile de gérer son temps. Et surtout avec cette fin de Ramadan, les nuits c'est courte et c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Mais écoute, on va démarrer cette troisième partie, Inch'Allah. Bismillah. Donc pour cette troisième partie, principalement, je voulais voir avec toi deux aspects donc de ce Ramadan. Le premier, c'est les objectifs qu'on a pu se fixer pendant ce Ramadan. Et le deuxième aspect, c'est à propos des exemptés du jeûne et les exemptés du jeûne et de la prière, les alternatives qu'on peut avoir pendant cette fin de Ramadan. Donc, bismillah, on va commencer avec la partie objectif. Alors, les objectifs, bon, en général, on se les pose, on se les fixe en début de Ramadan. Chacun a sa manière de faire. Hein, c'est soit tu les notes sur un post-it, tu les notes sur une feuille que tu ne retrouves jamais. Tu les notes sur tes notes dans ton téléphone, ou il y en a carrément qui ont des Ramadan planeurs. Bon, perso, je ne fais pas partie de ces personnes-là parce que je n'arrive pas à m'organiser. Je suis vraiment un pied niveau organisation. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour toi si tu fais ça. Enfin bref, c'est pas le sujet. Là, je voulais surtout faire avec toi un bilan, un petit check-up. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que tu en es? Au niveau de tes objectifs, est-ce que tu as réussi à atteindre les objectifs que tu t'étais fixés? Oui, non, certains, pas du tout, tous. Donc si tu veux bien, j'aimerais bien que tu ailles prendre une feuille, un stylo et noter du coup tes objectifs que tu avais fixés en tout début de Ramadan, si tu t'en étais fixé, et mettre des petites cases devant. Et ou alors stabiloter les objectifs que tu as réussi à atteindre. Et j'aimerais qu'on se concentre sur cela. Déjà, félicitations pour tous ceux que tu as réussi à atteindre. Parce que l'objectif de ce Ramadan, c'est avant tout l'amélioration. Et l'amélioration, elle peut se faire avec un tout petit pas de fourmi, ou un énorme pas de géant. Et chacun va à son rythme, chacun va selon ses références. Donc un petit pas pour toi, ça pourrait être un énorme pas pour une autre personne, et inversement. D'ailleurs, ne te compare pas par rapport aux autres sur cet aspect-là, ou plein d'autres aspects de la vie d'ailleurs. Mais là, on va se concentrer sur cet aspect-là. Ne te concentre pas sur ce que font les autres. Ne te mets pas en compétition avec les autres, parce que la compétition, elle se fait contre toi-même avant tout. Donc ton petit pas d'apprendre une sourate, ta première sourate, ça peut être un énorme pas pour toi et un tout petit pas pour une autre personne qui en connaît déjà une cinquantaine. Donc je veux pas que tu baisses les bras. Je disais, pour tes objectifs fixés, ceux devant lesquels tu as réussi à mettre un petit check ou ceux que tu as stabilotés, j'aimerais que tu te concentres dessus. Que tu te concentres dessus beaucoup plus que sur les échecs. Je veux pas que tu vois ton Ramadan comme un échec. Je ne veux pas que tu te dises, oui, mais je devais faire ça, je devais atteindre ça, et je devais faire ça et ça et ça, et tout ça, j'ai pas réussi à le faire. Parce que on a toujours tendance à regarder le mauvais, le négatif, le verre à moitié vide. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est que tu vois le verre à moitié plein. Je veux que tu vois ce que tu as réussi à accomplir. D'accord? Et ensuite, une fois qu'on aura vu tout ça, parce que oui, tu peux être fier de toi pour ce que tu as accompli. Et Allah est fier de toi et il est content que tu te rapproches de lui, pas à pas, petit pas par petit pas. Et ensuite, on va passer sur les objectifs non atteints s'il y en a. Parce qu'ils peuvent être non atteints pour plusieurs raisons. Et la principale, c'est qu'on a les yeux plus gros que le ventre. Soit on s'est fixé beaucoup trop d'objectifs. Et une journée ne suffit pas pour tout faire. Si t'enlèves le temps de sommeil, le temps pour manger, le temps pour prier, tes prières obligatoires, il te reste approximativement 16 heures dans la journée. Si tu te déplaces, je sais pas, tu fais une heure de trajet aller et retour, il t'en reste 14. Et avec la fatigue énorme du ramadan, il suffit que tu aies un foyer à gérer par exemple, c'est fini. Tout a disparu. Et même quand tu n'as pas un foyer à gérer, des fois c'est très difficile de gérer la fatigue et ses objectifs et tout ce que tu as envie de faire. Et tu peux pas tout gérer. Des fois, on se surcharge soi-même. Ses objectifs non atteints, ça peut être à cause de ça. Ça peut être à cause du fait que tu te sois surchargé. Que tu te sois dit, j'ai envie de tout faire, mais clairement, c'est pas possible de tout faire. Et puis surtout, ça enlève le bonheur et la joie de pouvoir aller vers ses objectifs et se féliciter après, se faire une petite tape sur le dos en mode bah, je suis fière de moi. Parce que tu te mets dans une situation d'échec et de frustration où tu ne vois que ce que tu n'as pas pu faire. Parce que plus tu as envie de faire de choses, plus il y en a que tu ne pourras pas faire. Le conseil que je te donnerais pour, par exemple, le prochain ramadan, Inch'Allah, ce serait de te donner au maximum un à deux objectifs principaux. Vraiment, max du max. Après, tu peux te donner des objectifs secondaires, mais ne pas te mettre la pression dessus. C'est-à-dire que les objectifs principaux, ça sera les objectifs que tu vas vraiment t'atteler à atteindre. Et les objectifs secondaires, si tu les atteins, tant mieux, c'est du bonus. Si tu ne les atteins pas, c'est pas grave, c'était du bonus. Ensuite, une des autres raisons pour lesquelles tu n'as pas pu les atteindre, peut-être que tu ne t'es pas rendu compte de l'ampleur que ça représentait. Je te donne mon exemple, moi j'ai beaucoup de mal avec la notion du temps par exemple. Il y a des fois où j'ai l'impression qu'en une heure, je vais pouvoir faire deux tâches différentes qui prennent 2 heures chacune. C'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Et j'ai une très mauvaise notion du temps, du coup, à chaque fois, je me surcharge et je peux pas tout faire en même temps. C'est pas possible. Et dans ce cas-là, je me remets en question, je me dis, ok, on va tout réévaluer. J'ai pas pu faire ça parce que, bah, clairement, c'était pas réalisable, c'était pas réaliste. On va faire une réévaluation et on va voir ce que j'aurais pu faire, ce que j'ai réussi à faire, et me dire, bon, bah, c'est très bien finalement par rapport à ce qui était faisable. Et me redonner peut-être d'autres objectifs plus réalistes, plus faisables. Et donc, je t'encourage vivement à faire ça, à réévaluer tes objectifs. Surtout que là, il reste une petite semaine. C'est le moment parfait pour te dire, ok, en une semaine, qu'est-ce que je pourrais faire? De réalisable en une semaine. Ne te donne pas des objectifs à faire en une semaine qui ne sont faisables qu'en un mois. Ne te donne pas trop d'objectifs non plus, parce que je te rappelle que là, les nuits c'est courtes. Tu as quasiment presque un mois derrière toi de jeûne, de fatigue. C'est pas facile. Physiquement, c'est pas facile. Mentalement, c'est pas facile. Donc on va se donner des objectifs qui ne vont pas nous mettre dans une situation d'échec, mais qui vont nous donner, tu sais, la carotte qui fait avancer l'âne, qui va nous donner envie d'aller jusqu'au bout de ce ramadan avec des objectifs, avec une raison de continuer avec engouement. C'est ça, c'est l'engouement qu'on va chercher. Pas la frustration, pas l'échec. Donc là, on a parlé des personnes qui ont fixé des objectifs. Si ça n'était pas ton cas, bah écoute, c'est pas grave, parce que c'est pas trop tard. Là, il reste une petite semaine. C'est le moment de te fixer, comme je t'ai dit, un objectif principal que tu vas essayer de remplir au mieux, même si tu le remplis partiellement. Tu le remplis partiellement, ça veut dire que tu l'as quand même rempli. Il n'est pas vide. Donc, tu vas te donner un objectif principal à remplir et tu vas tout donner pour le remplir, pour l'atteindre. Et on va y aller ensemble et on va y arriver ensemble, Inch'Allah. Et de toute manière, je te donnerai deux, trois exemples desquels tu pourras peut-être t'inspirer. Peut-être que tu en noteras un ou deux et que ça te donnera des idées. Et donc pour pouvoir avoir ton propre objectif personnalisé que tu vas atteindre bi'idhnillah. Et je te rappelle dans tout ça que l'objectif, c'est avant tout de passer d'un point A à un point B. L'objectif, c'est pas de gravir l'Everest sans oxygène. On va pas aller chercher des choses qui vont nous mettre en difficulté. L'objectif, c'est d'évoluer. Ces objectifs-là, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh ben écoute, ça dépend de toi. Tout dépend de toi. De là où tu en es. De ce que tu aimerais améliorer. Parce qu'on a toujours quelque chose à améliorer. Que ce soit des prières qu'on ne prie pas, qu'on voudrait prier. Des actes surérogatoires qu'on ne faisait jamais, qu'on va commencer à mettre en place. Quelque chose qui nous trotte dans la tête et qu'on a envie de titiller un peu du bout des doigts, eh ben on y va. Il y a plusieurs possibilités, on va essayer de les balayer un peu toutes. Ça sera pas exhaustif, mais je vais essayer de faire au mieux pour pouvoir toucher un maximum de monde. Donc bah écoute, si tu veux bien, on va commencer un peu la liste des exemples. Par exemple, c'est ton premier ramadan, tu viens de te reconvertir, tu sais même pas comment on prie, qu'est-ce qu'il faut faire dans la prière, tu connais rien à proprement parler à la religion dans laquelle tu viens d'entrer, déjà bienvenue. Et ensuite, sache que c'est normal et tu as plein de trucs à apprendre. Tout comme les personnes qui sont nées dans cette religion ont beaucoup de choses à apprendre encore. Et cet apprentissage, par quoi il peut passer? Par exemple, l'apprentissage de la prière. Si tu ne sais pas comment prier, que tu veux apprendre, eh ben écoute, en plus j'ai un bon plan pour toi. Il y a une application qui s'appelle Salat Learning. C'est un petit logo bleu qui t'explique vraiment toutes les étapes de la prière. De manière hyper simplifiée, et il y a même des images, donc tu suis l'image parfaitement et tu as la bonne position, tu as les bonnes indications pour la prière. La seule chose que j'aimerais rajouter, c'est pendant l'istiqama entre deux sujoud, donc entre deux moments où tu as le front au sol, entre les deux tu te rassois sur tes pieds. Et à ce moment-là, il y a une sunna qui dit de dire trois fois « Rabbi ghfirli », donc « Oh Allah, pardonne-moi ». Mais c'est vraiment la seule chose que je rajouterais à ça. Et bah écoute, si ton objectif là, c'est d'apprendre à prier, pas nécessairement commencer à prier, mais au moins apprendre en fonction de ta méthode, tu peux avoir un cahier où tu vas tout réécrire, tu peux faire des notes, prendre des screenshots, t'entraîner pendant toute la journée ou t'entraîner avec des amis qui te montrent, peu importe. Et bah écoute, ça peut être un de tes objectifs ou ton objectif principal là pendant la fin de ce ramadan et après encore. Parce qu'on en parlera tout à l'heure. Mais là, je parle d'objectifs de ramadan, mais on va chercher à les étendre à après le ramadan aussi. Un des objectifs, ça peut être d'apprendre surat al-Fatiha. Si tu ne la connaissais pas ou que tu suivais avec un papier tout le temps dans les mains et que tu te dis « ouais, mais c'est quand même, ça m'embête, j'aime pas avoir tout le temps le papier, j'aimerais bien la connaître quand même. » Eh bah, ben, note-toi cet objectif. C'est pas parce que c'est juste, entre gros guillemets, surat al-Fatiha, que c'est pas un gros objectif. Surat al-Fatiha, elle est pleine de richesses. C'est une surat qui est incroyable, elle est pas à négliger. Et on la récite 17 fois par jour, donc elle a une place absolument importante et absolument cruciale dans notre vie. Donc c'est un très gros objectif et un très bel objectif. Donc il y a plein de méthodes, hein. Chacun sa méthode adaptée. Moi, je sais que ce qui marche pour moi, c'est vraiment l'écouter en boucle, en boucle, en boucle, encore et encore, et répéter avec, et essayer de comprendre, etc. Un autre, un autre type d'objectif, ça peut être de te dire là, j'étais fumeur quand ou fumeuse quand j'ai commencé le ramadan, mais j'aimerais tellement arrêter, mais c'est tellement dur. Et bah écoute, l'avantage pendant ce ramadan, c'est que pendant la journée, comme tu jeûnes, tu n'as pas le droit de fumer. Sinon, ça rompt ton jeûne. Bah, je te propose de faire cet exercice de manière un peu plus intense et d'éviter de fumer même le soir. Tu peux commencer en faisant un soir sur deux, un soir sur trois où tu fumes. Puis arrêter petit à petit jusqu'à arrêter complètement. Ou même si tu t'en sens le courage et que tu es bien entouré, que tu es bien encouragé, moi en tout cas je t'encourage, bah arrêter complètement. Et demande sans cesse, encore et encore à Allah de t'aider dans toutes tes prières, pendant tous les moments où les invocations ne sont pas refusées, elles sont acceptées par Allah. Demande à Allah de t'aider, de te faciliter, de t'aider à arrêter complètement. Et ça vaut pour tous les péchés, pour toutes les addictions, toutes les choses avec lesquelles on a vraiment du mal. Et Allah est capable de nous aider, Allah est capable de tout. Donc n'hésite pas à retourner vers lui et lui demander son aide. Il sera toujours à tes côtés pour t'aider. Tout à l'heure, je te parlais d'apprendre à faire la prière. Tu peux par exemple avoir su pendant toute ta vie comment faire la prière, mais tu t'y es jamais mis et tu te disais toujours « mais regarde, à mon grand âge c'est là que je vais commencer, j'ai honte, j'arrive pas, machin ». Je t'encourage vivement à sauter le pas, à te dire « c'est maintenant le premier jour du reste de ma vie ». De te dire « là je vais commencer à prier, je vais m'efforcer de rajouter à ma prière quotidienne une deuxième prière, à rajouter à mes deux prières une troisième prière, etc. etc. jusqu'à obtenir mes cinq prières par jour. » Et à chaque prière que tu fais, tu demandes à Allah de t'aider pour les autres. Je sais que c'est pas toujours facile. Je suis passée par tellement d'étapes dans ma vie par rapport à la prière. Ça a été mon pire ennemi et c'est mon meilleur ami, alhamdoulilah, aujourd'hui. Et on peut évoluer, mais d'une manière fulgurante, alhamdoulilah, grâce à Allah. Quand il t'aide, quand tu as son aide, tu ne peux être ébranlé par absolument rien et personne. Et d'ailleurs, ça me fait penser quand je te disais qu'on se dit souvent que c'est trop tard, que c'est pas maintenant à son grand âge qu'on va commencer les choses. Bah moi, j'ai envie de te dire au contraire, bien au contraire. Plus le temps passe, plus on se rapproche de notre échéance. Et je ne t'apprends rien en te disant que on va tous goûter à la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Ça, c'est dans le Coran. J'invente rien. Mais plus le temps passe, plus tu prends de risques par rapport à tout ça. Et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, plus que jamais, même si tu n'as jamais fait cette chose auparavant, c'est le moment de la faire. J'ai envie que tu te donnes des objectifs de faire des choses exceptionnelles. Exceptionnelles pas dans le sens où c'est extraordinaire, où ça va ébahir tout le monde et mettre des étoiles dans les yeux de tout le monde. Pas du tout. Exceptionnelles dans le sens où c'est une exception. Où c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Quelque chose soit à laquelle tu n'avais jamais pensé avant, ou alors quelque chose que tu avais toujours repoussé, dont tu avais toujours repoussé l'échéance, où tu t'étais toujours dit « ouais, mais c'est trop tard ». Non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Je vais te donner quelques exemples. Ça peut être par exemple arrêter la musique. Arrêter d'écouter de la musique. Ou de faire de la musique. Jusque-là, tu te disais que c'était pas possible. Impossible de quitter ça, impossible d'arrêter ça. Ah non, mais c'est... Moi, pendant tous mes trajets, j'écoute, je peux pas m'en passer, j'y suis accro. Parce que oui, c'est une addiction. Mais tu peux. Et quand je te dis, quand je te parle d'exception et d'exceptionnel, je te parle aussi surtout de cette dernière semaine. Tu peux te donner comme objectif de faire une chose pendant là les 7 derniers jours du ramadan avec pour objectif de te dire je vais essayer de tenir même après ces 7 jours. Si tu échoues, c'est pas grave, au moins tu auras tenu pendant ces 7 jours. Et tu n'es pas hypocrite. Tu n'es pas hypocrite de l'avoir fait seulement pendant ces 7 jours, ou pendant 3 jours, ou pendant 2 jours, ou pendant 1 jour, et d'avoir repris ensuite sur tes mauvaises habitudes, parce qu'au moins tu auras fait l'effort, ça aura été une première expérience qui, je l'espère, sera seulement le début d'une suite. Bi'idhnillah. Et tu n'es pas hypocrite, à la condition que si tu as pour objectif de réellement faire un effort et travailler dessus pour pouvoir le faire sur la durée. On réussit pas toujours, mais l'essentiel c'est d'essayer, et d'essayer réellement, avec l'intention réelle et sincère de le faire. Et un jour c'est toujours mieux que zéro, 2 jours c'est toujours mieux que zéro, 5 jours, 7 jours c'est toujours mieux que zéro, et Allahu a'lam, peut-être que ça sera le début d'années entières jusqu'à, je l'espère, la fin de ta vie, où tu auras fait cette chose de bien ou arrêté cette chose de mal. Donc je te donnais l'exemple d'écouter de la musique. Peut-être que le premier jour, ça sera très difficile parce que tu auras des réflexes, tu auras des envies d'écouter, et ça fera partie de ton quotidien, ça devient vraiment des réflexes. Et tu te fais violence le premier jour. Le deuxième jour, c'est un peu plus facile, mais c'est compliqué quand même. Troisième jour, bah finalement ça va. T'as trouvé d'autres choses avec lesquelles t'occuper, d'autres choses à écouter à la place, et tu commences à remplacer petit à petit. Quatrième jour, bah finalement c'était pas... Cinquième jour, mince, bah je suis retombée dedans. Ok, on se ressaisit. Sixième jour, on recommence. Etc, etc. Et ça vraiment, tu peux l'appliquer avec plein de trucs. Le fait d'arrêter de fumer, le fait d'arrêter d'être vulgaire, de chercher à assainir sa bouche et sa langue et son cœur. Le fait d'avoir la lecture du Qur'an. Tu le lis, t'essayes de le lire quotidiennement. Soit pour ne pas te surcharger, lire par exemple un verset par jour. Même s'il y a d'autres personnes qui lisent 5 pages par jour, qui lisent 20 pages par jour, toi tu débutes, tu te donnes des objectifs qui sont à ton échelle. Tu y vas petit à petit, un verset par jour, puis 2 versets par jour, puis 3 versets par jour. Puis il y a un jour où tu zappes complètement et tu recommences. Soit tu recommences à 3, 2 ou 1, mais en tout cas tu recommences. Et lâche jamais, vraiment ne lâche jamais. Un autre acte exceptionnel que tu pourrais faire, toi, ma sœur, par exemple, porter le hijab. Ne serait-ce que pendant ces derniers jours de Ramadan. En plus, c'est beaucoup plus simple parce que quand on va au Tarawih, quand on va au Qiyam al-Layl, donc les prières de nuit, on va à la mosquée, donc on est automatiquement couverte, donc on est forcément en hijab. Et si tu élargissais ce moment à une demi-journée, à une journée entière, 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, même si c'est les 7 jours du Ramadan, c'est au moins 7 jours pendant lesquels tu auras été voilé. Et Allahu a'lam, peut-être que après ces 7 jours, tu ne pourras plus le lâcher, ce hijab, et peut-être que même si tu le lâches, ça sera une graine qui va germer dans ton cerveau, dans ton esprit. Et tu vas te rappeler la sensation que ça t'a provoquée. Et tu vas te dire, bah, j'aimerais bien le mettre. Pas tout de suite, c'est pas le moment, etc. Bon, ça c'est des waswas, on est d'accord. Mais au moins tu y penses, tu y penses, tu y penses, tu y penses jusqu'à sauter le pas. Et là, je te le souhaite réellement. C'est un cadeau. C'est un apaisement, alhamdoulilah. C'est une paix intérieure que ça t'apporte, qu'Allah te facilite. Amin. Et vraiment, je reviens et j'insiste sur les choses exceptionnelles. Si, par exemple, et ça je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, j'ai été dans ce cas-là, si tu es né dans une famille musulmane, ou pas d'ailleurs, que tu sais comment prier, mais que t'as toujours repoussé la prière, tu l'as toujours... Enfin, ça a toujours été comme une punition pour toi et t'avais pas cette envie d'y aller, etc. Et que là, tu te dis, quand même, c'est pas sérieux de ma part. C'est quand même une des seules choses qu'Allah me demande au quotidien, c'est la seule chose qu'Allah me demande au quotidien, et je suis même pas capable de lui donner ça alors qu'il m'a donné tant de choses. J'ai envie de commencer la prière. Mais en même temps, je fais encore tellement de choses pas bien. Et puis surtout, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer, c'est pas maintenant que je vais commencer. Eh bien si, c'est justement la chose exceptionnelle que je te pousserai le plus à faire. C'est maintenant que tu vas commencer. C'est maintenant qu'il faut commencer. C'est justement parce que, en plus, tu te situes dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, les 10 dernières nuits qui contiennent, parmi elles, la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est presque 84 ans. Tu imagines si tu pries pendant cette nuit, c'est comme si tu avais prié pendant 84 ans. Aucun d'entre vous n'a vécu 84 ans jusque-là, enfin je suppose, en tout cas d'après mes statistiques sur mes écoutes, il y a personne qui a plus de 60 ans. Mais t'imagines 84 ans, au moment où toi t'étais en train de te dire, mais jamais je pourrais rattraper toutes ces années de prières non priées, eh bien Allah te donne une solution, il te donne une opportunité de rattraper tout ça en une nuit. Une nuit. Donc c'est le moment. C'est le moment de foncer. C'est le moment de commencer. C'est le moment de recommencer. De reprendre contact avec cette prière. Autre chose à laquelle je pensais, c'est par exemple pour les hommes. Si tu es un homme, autre chose à laquelle je pensais, par exemple, si tu es un homme et que tu n'es jamais allé à la mosquée, quelle que soit la raison, tu as peut-être eu une expérience traumatisante ou des mauvais souvenirs ou t'as peut-être juste honte, peu importe ce qui te retient d'y aller et que tu te disais ouais mais j'y suis jamais allée, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer à y aller. Eh bien si, justement, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à y aller. C'est le moment opportun, c'est le moment rêvé. Allah t'accueille dans sa maison. Comment tu peux refuser cet accueil? Comment tu peux refuser cette invitation? Vas-y. Il ne te jugera pas, il te regarde avec bienveillance. Et il voit que tu as fait un pas vers lui et il en fera deux vers toi. Il voit que tu viens à lui malgré toutes tes appréhensions, malgré toutes ces difficultés-là. Il va te faciliter et il n'y a pas de honte à apprendre. Tu ne sais pas faire, tu as peur de te tromper, etc. C'est pas grave. On ne naît pas savant, on ne naît pas en connaissant les choses, on apprend. Quel que soit notre âge, quel que soit, peu importe la situation réellement. Vas-y, lance-toi. Lance-toi et si tu as peur par rapport à un entourage, etc., qui serait malveillant, entoure-toi de gens bienveillants. Envoie un message à quelqu'un que tu connais, que tu sais, qui est bienveillant. Dis-lui, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien aller avec moi à la mosquée? On y va tous les deux. On y va ensemble, soudés, et on s'entraide. On s'apprend avec bienveillance. Donc ce message, c'est pour la personne qui n'ose pas et pour les personnes qui entourent ces personnes qui n'osent pas. Ne jugez pas, ne jugez jamais. Vous pourriez vous retrouver dans leur situation, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, pour n'importe quel sujet. Ça peut être toi à n'importe quel moment de ta vie. Ne juge jamais une personne pour ce qu'elle ne sait pas faire, ce qu'elle ne sait pas. Ce qu'elle ne connaît pas, ou ce qu'elle fait maladroitement, part toujours du principe que cette personne ne sait pas et apporte les choses avec bienveillance. Une autre chose exceptionnelle que tu pourrais faire, ça pourrait être apprendre l'arabe. Après ça, je sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais tu pourrais par exemple commencer pendant ces derniers jours de Ramadan, te dire bah. C'est vrai que j'entends beaucoup, je lis la phonétique, etc. Mais j'aimerais quand même beaucoup lire l'arabe enfin, lire le Coran en arabe. Eh bah écoute, fonce, clairement, carrément. Et d'ailleurs, il y a une plateforme qui très souvent fait des offres, qui s'appelle l'Arabe Facile. Jusqu'à mercredi dernier, je crois qu'ils avaient refait une offre, mais ils en refont vraiment assez souvent. Ils font des offres de fou. Vraiment, moins 70%, et tu peux étaler tes paiements sur 10 mois. et t'as un accès à vie à tous les cours. Et le prof, vraiment, qu'Allah le préserve, il a une pédagogie de malade. Vraiment, cette plateforme, elle est incroyable. Et même à part le fait d'apprendre l'arabe, tu peux prendre des cours auprès d'instituts en ligne ou auprès de ta mosquée. Tout à l'heure, je te le disais, apprendre des sourates, apprendre une sourate, courte ou longue, peu importe. Donne-toi des objectifs que tu voudras atteindre, soit là pour la fin du ramadan, soit pour le reste de l'année. Pour le reste de l'année, par exemple, tu peux te donner comme objectif d'apprendre un juz, donc c'est un 30e en gros du Coran. Il y a 30 juz, donc c'est 30, disons, chapitres, gros chapitres. Tu peux te donner l'objectif d'apprendre 3 sourates, donc 3 sourates. Tu peux te donner l'objectif d'apprendre l'arabe d'ici, enfin d'apprendre à lire et à écrire l'arabe d'ici la fin de l'année. Tu peux te donner l'objectif de te faire une cagnotte ou une tirelire pour amasser de l'argent pour le hajj ou pour la umra, pour toi, tes parents, tes frères et sœurs, ton mari, ta femme, tes enfants, peu importe. Tu vois, l'objectif de ces 7 derniers jours, c'est pas seulement sur les 7 derniers jours. Moi, j'aimerais que tu te projettes sur plus loin encore, sur toute l'année, pour que le mois de Ramadan ne soit pas le seul mois rempli de foi, de religion pour toi, que tu continues ces efforts-là sur tout le reste de l'année. J'aimerais refaire une parenthèse sur quelque chose que je t'ai dit tout à l'heure, à propos du fait qu'on se dise parfois ouais, mais c'est trop tard, je suis allée trop loin. C'est pas maintenant que ça va changer, c'est pas maintenant que je vais commencer, etc. Déjà, sache que si rien n'était rattrapable, Allah ne te demanderait pas de revenir vers lui. Allah ne te demanderait pas de te repentir pour qu'il puisse te pardonner. Si c'était pas rattrapable, si c'était trop tard, effectivement, à la moindre erreur, tu serais déjà condamné. Et dans ce cas-là, bah, trop tard, quoi. Mais non, c'est pas le cas. Allah, il nous demande à chaque fois de revenir vers lui, de demander pardon. De se repentir sincèrement, de regretter son erreur, et il efface tout. Il enlève tout pour nous, pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases, comme si ça n'avait jamais existé. Subhanallah. Il l'a dit au shaitan quand le shaitan lui a dit qu'il chercherait à nous corrompre par tous les moyens, et Allah lui a répondu que tant que on reviendrait vers lui, il nous pardonnerait. Donc, vraiment, ne perds pas espoir. Ne sois pas désespéré, parce que ça, c'est le comportement du shaitan. D'ailleurs, je te recommande vivement d'aller regarder le podcast de Zainab, de Coran de ton cœur, les podcasts du Ramadan, le jour 5, il me semble. Ouais, c'est ça. Le jour 5, elle a fait un épisode là-dessus, avec une ayah du Coran qui expliquait cette situation-là. Et elle expliquait vachement bien. Le fait que la caractéristique du shaitan, c'est le désespoir. Lui a été désespéré et il cherche à désespérer les personnes qui essayent de corrompre. Et avoir cette mentalité de désespoir, de perdre tout espoir, c'est un des traits de personnalité du shaitan. Et il faut s'en éloigner, il faut s'éloigner de son waswas. C'est son waswas qui nous dit « Ah mais regarde, t'as déjà fait tout ça et tu crois vraiment qu'Allah va te pardonner. T'es là, tu fais ça et ça et ça. Vas-y, mon frère, ma sœur, c'est trop tard. Vas-y, continue sur ta pente. Elle est bien glissante, bien savonneuse. Continue, t'es sur la bonne voie. De toute manière, c'est trop tard, tu peux plus remonter. Faut pas écouter ça. Faut pas écouter ces waswas. On peut toujours remonter la pente. On peut toujours se battre. On peut toujours revenir en arrière. On peut toujours se détacher de la bêtise du shaitan, qui est de perdre espoir. Ne perds jamais espoir en Allah. Ne perds jamais espoir en sa miséricorde. Quoi que tu aies fait, il veut que tu retournes vers lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour te pardonner, pour te faciliter la vie, pour que tu sois reconnaissante, reconnaissant, et pour qu'il puisse multiplier pour toi tout ce qu'il y a à multiplier dans ta vie. Si en une nuit, tu peux rattraper 84 ans de prière, Rien n'est jamais trop tard. Rien n'est jamais trop tard auprès d'Allah. Donc là, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Donc, la partie à propos des exemptés du jeûne, de certains jours du mois de Ramadan. Et d'ailleurs, je tenais à m'excuser auprès de vous. J'ai fait une erreur pendant la première partie, du coup, de cet épisode en trois parties. J'avais dit que les personnes exemptées de jeûne, à part les malades, il me semble, devaient rattraper leur jeûne ou je ne sais plus. Mais en gros, toutes les personnes, à part les femmes en période de menstrues, qui sont exemptées de jeûne, que ce soit de manière temporaire ou permanente, ont une fidya à verser. Donc c'est une compensation de nourrir un pauvre pendant pour chaque jour non jeûné. Ceci étant dit, du coup, je voulais revenir donc sur ça, sur les exemptés du jeûne. On avait bien détaillé de qui il s'agissait. Et étant donné que cette récompense du jeûne est tellement énorme, je t'en avais parlé, c'est une récompense tellement énorme qu'on ne sait même pas ce qu'elle vaut. On ne sait même pas, on ne peut même pas, je pense, imaginer ce qu'elle vaut. Et c'est Allah lui-même qui nous la donnera, qui nous la distribuera le jour du jugement dernier. Tellement elle est grandiose. Et tu pourrais te dire, ah mais du coup si je jeûne pas, je passe à côté de ça. Bah écoute, pas forcément. Tu peux toujours la voir, par exemple, en nourrissant un jeûneur ou une jeûneuse. Et du coup ça te donne la récompense de son jeûne sans que ça le lui enlève. Tu peux aussi, par cette même occasion, multiplier les autres actes d'adoration. Prier, les prières obligatoires, évidemment, et les surérogatoires, les multiplier encore et encore. Donner en aumône, s'occuper de sa famille et de son foyer, parce que oui, c'est un acte d'adoration. Demander pardon à Allah, le louer, lire du Coran, s'instruire sur sa religion. Lire des livres de la Sira, du Tawhid, des tafsir, donc les exégèses. C'est les explications en gros des contextes et des sens des révélations donc dans le Coran. Multiplie toutes les autres formes d'adoration. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui dit que le voyageur ou la personne malade qui ne peuvent pas faire certains actes d'adoration qu'ils avaient l'habitude de faire en dehors de ce moment-là où ils ne peuvent pas les faire, elles leur sont comptées en entier, comme s'ils les avaient faites. Rien ne leur est enlevé. Donc, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas de ce côté-là. Allah te garde ça au chaud pour toi, comme si tu l'avais fait, parce qu'il sait que tu n'as pas pu le faire. Parce qu'il sait que ça a été une difficulté pour toi, et que tu n'as pas pu le faire. Et peut-être même, par exemple, par la difficulté d'un voyage, par la souffrance d'une maladie. Si tu as ça en plus dans cette journée-là, sache que Allah te pardonne des péchés en plus. Parce que pour ne serait-ce qu'une épine avec laquelle tu te piques, la souffrance qu'elle entraîne, Allah te pardonne par là des péchés. Subhanallah. Et d'ailleurs, il y a eu un qiyas qui a été fait à propos du fait que Allah te comptait entièrement tes œuvres comme si tu les avais faites quand tu en avais l'intention de les faire ou tu aurais eu que tu avais l'habitude de les faire ou de toute manière que tu les aurais faites si tu avais pu à ce moment-là. Il y a eu un qiyas, donc une sorte d'équivalence qui a été faite par les savants de la religion à propos de la femme en période de menstrues, que pour elle aussi, c'était pas possible de faire certains actes d'adoration, notamment la prière et le jeûne, donc pendant la période de menstrues, et que du coup Allah nous réserve pendant ces périodes-là ces actes en entier, comme si on les avait faits, sans avoir à les faire. Donc c'est pas une punition, faut pas voir ça comme une punition, faut vraiment voir ça comme un honneur. comme un cadeau. Vraiment, c'est un cadeau emballé avec un beau papier cadeau et un joli nœud dessus. Et un petit mot qui nous dit « ne t'inquiète pas ». Donc pour toutes mes sœurs qui ont eu, qui ont ou qui auront leurs règles pendant les 10 derniers jours pendant lesquels se présente Laylat al-Qadr, ne désespère pas, ne sois pas triste, ne t'accable pas en te disant « mais mince, je vais le rater en fait, je vais rater tout ça ». Il suffit que tu en aies eu l'intention de veiller la nuit en prière, de jeûner, de faire tous ces actes d'adoration pendant ces 10 dernières nuits pour qu'Allah te les comptabilise sans que tu aies à les faire parce que tu ne peux pas les faire. Et ça, c'est... Je sais pas toi, mais moi, ça me met des étoiles dans les yeux. Moi, je nous vois vraiment comme des princesses aux yeux d'Allah. Et il nous honore tellement en nous disant, je sais que c'est difficile pour toi. En nous disant, donc, je t'enlève ces obligations de ta route et je vais voir comment tu vas réagir. Rien que le fait de ne pas prier, de ne pas jeûner, c'est un acte d'adoration parce que tu obéis à Allah. Déjà, de un. De deux, il sait à quel point on peut être en souffrance pendant ces périodes-là. Et il ne veut pas pour nous la difficulté, il veut pour nous la facilité. Donc il ne veut pas nous mettre en difficulté en nous mettant ses obligations devant nous et en nous disant tu les fais quand même, même si tu peux être dans un état où t'es plié en quatre. Il a tellement de rahma, de miséricorde pour nous, qu'il nous dit ok, je t'enlève ça, mais t'inquiète pas, je t'enlève pas la récompense. Je compte comme si tu l'avais fait. Et ça, mais c'est tellement beau, vraiment. Donc ne t'accable pas pour ça. Et multiplie les autres actes d'adoration que tu peux faire. Genre par exemple, apprendre des sourates. Il y a des divergences entre les savants sur le fait qu'on puisse toucher le Coran directement en période de menstrues. Parce que c'est une impureté qu'on ne peut pas enlever. Dont on ne peut pas se débarrasser sur le moment. Il y en a qui te disent que tu peux toucher, mais uniquement avec, par exemple, des gants ou un tissu autre, etc. D'autres qui te disent que tu peux toucher le Coran qui est en arabe et en français, donc traduit français avec les écritures arabes, et que tu ne peux pas toucher celui qui est seulement écrit en arabe. Et puis, de toute manière, on a tout qui est accessible. À l'heure d'aujourd'hui, sur nos téléphones, nos tablettes, nos ordis, que on n'a pas d'excuses. On a accès à tout. On peut lire le Coran, on peut apprendre, on peut écouter, on peut faire des invocations, l'istighfar, donc demander pardon à Allah, le louer, le remercier. Et on peut aussi faire à manger pour les membres jeûneurs de notre famille, par exemple de notre foyer. Et pour chaque jeûneur que tu nourris, tu as sa récompense du jeûne. On peut aussi, comme je te le disais tout à l'heure, s'intéresser aux exégèses, au tafsir. D'ailleurs, j'ai deux, trois pistes pour ça, si tu veux. Je sais que moi, pendant un temps, enfin, j'ai toujours envie, hein. J'ai toujours envie d'acheter les livres de tafsir d'Ibn Kathir. Mais enfin, il coûte 110 balles quoi. Et tu peux pas en acheter un, t'es obligé d'acheter les 6. Mais il y a une version en PDF sur internet qui est accessible gratuitement à tout le monde. Il y a une chaîne YouTube d'un imam qui s'appelle l'imam Soufiane Abu Ayyoub qui fait des exégèses. Elles sont assez longues, mais très complètes et très bien expliquées, très bien faites. Et il y a aussi le podcast que je te recommande tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui est Coran de ton cœur. Elle avait fait notamment l'exégèse de Sourate Yusuf, qui était super bien expliquée, c'était tellement simplifié, et tu te rendais compte de la profondeur de ce que tu lisais, et finalement tu te disais, bah, ce livre... que j'avais à mes côtés pendant toutes ces années, au final, je ne le comprenais même pas un peu. Et vraiment, j'aimerais revenir et insister sur un point, et je m'arrêterai là, Inch'Allah, c'est à propos des règles, comment elles sont vues dans notre société. Je te parle des menstrues. C'est pas une honte. Faut arrêter d'accabler toutes les femmes et d'en faire une honte. d'en faire quelque chose de dégoûtant, d'en faire quelque chose de vraiment honteux, tabou. Si c'était tabou, si on ne devait pas en parler, Allah n'en parlerait pas dans le Coran qui est récité dans le monde entier depuis des années et des années. Ça ne serait pas prononcé. C'est une chose qui a été explicitement évoquée par Allah. Pourquoi nous on en aurait honte? Pourquoi nous on le cacherait? Je ne te dis pas d'aller le crier sur tous les toits, mais c'est pas quelque chose qu'on doit éhonter outre mesure. Et vraiment, j'insiste parce que si c'était vraiment une honte à ce point, si c'était une punition, Allah n'en parlerait pas comme ça et il ne nous donnerait pas tous ces avantages liés à ça. Pendant toute la période où on ne peut pas prier, nos prières nous sont comptées quand même. On n'a pas à les faire et elles sont comptabilisées. C'est un cadeau. Et faut vous rappeler, et là je m'adresse beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes, rappelez-vous que tous les humains d'aujourd'hui, sauf les quelques naissances miraculeuses, sont nés grâce à ce processus. Donc il faut y porter un certain respect et une certaine considération. Et ne pas laisser la femme, vos sœurs, vos mères, vos filles, dans une solitude complète, dans une honte de devoir se cacher à tout prix, limite à fermer les yeux quand elles sont là, quand on les surprend à manger, comme si c'était quelque chose de grave, qu'elles avaient fait une énorme faute, alors que non. C'est quelque chose qu'Allah leur a autorisé, quelque chose qu'Allah leur a ordonné. Qui êtes-vous, vous ? Pour les accabler à ce point pour ça. Voilà. Je voulais juste m'arrêter sur ça. Je trouvais que ce point était quand même important à aborder. Et bah écoute, je te laisse. Je te laisse, bi'idnillah. Qu'Allah te garde. Qu'Allah te protège. Et qu'Allah accepte notre repentir. Qu'Allah accepte notre jeûne du mois de Ramadan. Qu'Allah efface tous nos péchés. Qu'il nous fasse entrer dans son paradis, le Firdaus. Et qu'Allah ait de la rahma, de la miséricorde pour les âmes de nos morts et qu'il fasse de leur tombe un nid douillet, qu'il l'élargisse à perte de vue et qu'il fasse qu'on puisse tous se retrouver, bi'idnillah, dans son vaste paradis. Allahumma amin. Sur ce, je te laisse. Assalamu alaikum wa rahmatullah.